chronique judiciaire avec Maître Julien Bouliane, 95.7 Kick.
Maître Bouliane, bon matin.
Bon matin.
Avant de parler de party de Noël qui vient arroser dans une église, revenons sur le présumé meurtrier de Marilène Lévesque, qui est accusé de la plus grave, accusation au code criminel, meurtre prémédité.
Effectivement. En fait, il est accusé de meurtre au premier degré. Je reviendrai là, sur la petite distinction. Il y a deux catégories de meurtre dans le code criminel. Meurtre au premier degré, meurtre au second degré. Tout ce qui n'est pas un meurtre au premier degré tombe donc meurtre au second degré. Les meurtres au premier degré, de façon générale, c'est pour ça que tu as raison de le dire, Dominique, on dit souvent meurtre prémédité. Donc, c'est meurtre prémédité et de propos délibérés. La préméditation, ça veut un peu la planification de tout ça.
Oui.
Et le propos délibéré, c'est d'avoir pris le temps d'y penser. Mmh. Donc, de ne pas avoir fait ça sur un coup de tête ou sous le coup de l'impulsion ou de la colère. Donc, c'est vraiment quelque chose de réfléchi qui rentre dans la définition de meurtre au premier degré. Mais il y a aussi des crimes qui, d'office, vont tomber dans la catégorie de meurtre au premier degré. Exemple, le meurtre d'un officier de police dans le cadre de ses fonctions, gardien de prison. Si aussi, il y a un meurtre qui est commis dans le cadre d'une autre infraction, intimidation, harcèlement, agression sexuelle.
Oui.
Des choses comme ça, il y a des crimes qui sont précis. Donc, si, alors que vous êtes en train de commettre une agression sexuelle, la personne en décède, et à ce moment-là que c'était, on prouve également le caractère volontaire de causer des lésions, voulant causer la mort ou de nature à causer la mort, sans vous soucier des conséquences, etc. Bon, ça devient automatiquement un meurtre au premier degré. Hier, le procureur a mentionné, par contre, que dans ce cas-ci, ça visait bien le meurtre prémédité. Donc, pas simplement du fait qu'on prétend que le meurtre en est résulté dans le cadre d'une agression sexuelle, mais ça pourrait être aussi une des raisons qui aurait fait en sorte qu'on dépose l'accusation de meurtre au premier degré.
Est-ce qu'on prend un risque en faisant ça? Parce qu'on aurait pu garder ça au deuxième degré puis s'assurer de le faire rentrer en dedans. Là, au premier degré, est-ce qu'on prend un risque?
Non, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, même, j'ai trouvé ça rassurant de voir que le procureur aux poursuites criminelles et pénales n'a pas d'entrée de jeu porter le gros chef de meurtre au premier degré sans en avoir la preuve ou tout au moins sans être convaincu d'être en mesure d'en faire la preuve. Parce que le plus en porte le moins en criminel. Et donc, si vous portez le chef de meurtre au premier degré, que vous faites le procès et qu'on n'est pas capable de démontrer la préméditation ou le propos délibéré, à ce moment-là, le juge, dans ses directives, va dire il y a des infractions qui sont incluses au meurtre au premier degré, à l'occurrence, meurtre au second degré, homicide involontaire coupable. Et donc, le juge va dire, si vous êtes convaincu de chacun des éléments constitutifs, y compris la préméditation et le propos délibéré, vous devez le déclarer coupable de meurtre au second degré. Si, par contre, vous n'avez pas l'élément, s'il manque un de ces deux éléments-là, vous devez le déclarer coupable de meurtre au second degré.
Okay.
Et ensuite, en descendant. Et c'est pour ça que je dis le plus emporte le moins. Donc, le plus safe pour un procureur, c'est de porter le gros chef, quitte à ce qu'il soit déclaré coupable de l'infraction moindre et incluse.
Ouais. Puis en partant de l'argumentaire, tu sais, je veux dire, le gars donne rendez-vous à la jeune fille dans une chambre d'hôtel, il est armé d'un couteau. Alors, pourquoi il est armé d'un couteau? C'est pas parce qu'il avait l'intention de finir ça. Tu sais, je veux dire, moi, je me promène pas avec un couteau dans une chambre d'hôtel.
Vous, non, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de mes clients là, qui ont le fameux couteau à la ceinture.
Oui, mais...
Ou même des gars, vous connaissez sûrement des chasseurs, des pêcheurs qui ont toujours un couteau sur eux. Nanana. Donc, ça, c'est pas parce qu'il y avait un couteau. Dans ce cas-ci, on se comprend. Là, dans le cas où
ça
vous
avez
un escorte, ça finit à plusieurs coups de couteau. Il y avait sans doute un élément qui nous permet de conclure ça. Mais la simple fait que vous portiez un couteau fait pas en sorte que vous avez l'intention de tuer quelqu'un.
Non, mais je vais donner rendez-vous à quelqu'un puis ça finit avec 44 coups de couteau.
Et c'est pour ça qu'on cherchait avoir les textos avant, ouais. Essayer de voir quand est-ce qu'il va s'acheter ses déplacements avant. S'il va juste avant s'acheter un couteau puis de la corde, on commence à être en mesure de démontrer la planification.
Est-ce qu'on tire la conclusion qu'à ce moment-là, ils ont retrouvé les appareils?
Bien, ils ont certainement des nouveaux éléments parce que le procureur, à prime abord, quand on lui a soumis ce dossier-là, là, ça a été très facile, comme je dis, de porter le meurtre au premier degré, mais il ne devait pas être convaincu à ce moment-là d'avoir la preuve. Maintenant, l'enquête a évolué, puis il dit « Maintenant, je suis convaincu d'être en mesure de le faire, donc je vais porter ce chef d'accusation-là. » Donc, ça nous permet de penser que soit ils ont un élément, soit ils se rendent compte que dans les textos, clairement, il est en train de planifier quelque chose dans ses déplacements avant, dans l'achat, dans les choses. Donc, il y a d'autres choses qui sont ressorties, qui est venu rajouter à ça. Mais dans les faits,
oui,
ça aura très peu d'impact pour lui s'il est déclaré coupable, ne serait-ce que du meurtre au second degré. Parce que la grosse différence sur les peines, c'est que si vous êtes déclaré coupable du meurtre au premier degré, c'est perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. dans un meurtre au second degré, de façon générale, c'est que vous êtes aussi déclaré sentencé à la perpétuité, mais le juge va statuer si vous êtes éligible après 10 ans jusqu'à 25 ans. Donc, vous pouvez dire 10, 11, 15, 25.
Oh oui.
Mais dans le cas de monsieur Gallès, c'est qu'il a déjà été déclaré coupable de meurtre au second degré. Et lorsque vous êtes déclaré coupable d'un meurtre au second degré et que par le passé, vous avez déjà été déclaré coupable d'un meurtre, c'est automatiquement 25 ans. Fait que sur la peine, ça n'aura aucune incidence. S'il est déclaré coupable ne serait-ce que du meurtre au second degré, ça sera prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle après 25 ans.
Fait qu'en gros, ce gars-là, il va finir en prison presque assurément, mais en fait, pas mal assurément, puis il ressortira pas de sitôt.
Ben, si on prend pour acquis qu'il a fait des aveux, puis ce qui manquait, c'était les éléments un peu autour pour venir ficeler ça puis corroborer sa version, ses chances d'acquittement deviennent très, 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 très minces. Et effectivement, s'il était déclaré coupable, il va mourir derrière les barreaux, très vraisemblablement.
Ouais, à moins qu'on tente de faire une défense, une fameuse défense qui le fait, mettons, des déclarations forcées ou là on va-tu s'enligner là, je...
Ben, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de chance. Parce que, tu sais, dès le départ, on pourrait dire, ben, pourquoi est-ce qu'on continue l'enquête? Monsieur est arrivé là, il a avoué le meurtre, on ferme les livres, nanana. Ben, ça fait que des fois, il y a des surprises. Si, effectivement, la déclaration ne passe pas, parce qu'elle passe pas l'étape du voir dire, où il faut qu'on établisse qu'elle est faite de façon libre et volontaire, hors de tout doute raisonnable, et etc., il peut y avoir des éléments de preuve qui s'effritent avec le temps. Donc, on veut mettre le paquet, là. Tous les indices qu'on a, tout ce qu'on est capable de ramasser, s'assurer de corroborer par des éléments matériels qui font en sorte qu'il n'y ait pas d'échappatoire.
Est-ce qu'on pourrait avoir la défense de santé mentale à ce niveau-là?
C'est toujours possible, mais ce serait très surprenant qu'il soit dans un état, puis là je me prononce, puis je suis pas un expert, puis je connais pas le dossier, là. Mais il serait très surprenant que quelqu'un qui était suivi par des agents de libération là, soit à ce point désorganisé qui différenciait plus le bien du mal. Je veux bien croire qu'il y a certains cafouillages dans ce dossier-là, là, mais de là à penser que lui se promenait, puis qu'il était dans un état d'esprit de non-responsabilité criminelle, ce serait très, très, très étonnant.
Oui. Mais en tout cas, le ministère public attraperait l'air simple, encore une fois, si c'était le cas, parce que là, on disait, ouais, vous l'avez pas vu.
Oui, c'est ça, effectivement. Et il ne suffit pas de l'annoncer. Là. Souvent, tout le monde marque ça comme commentaire. Ah, il va plaider l'aliénation mentale. Il ne suffit pas de le dire. Venez voir le nombre de dossiers qui se passent dans les palais de justice. Là. Puis faites le pourcentage de combien finissent par une non-responsabilité criminelle. Là. C'est une poussière.
Bon. Partez de Noël dans une église au lac Saint-Jean. Des gens s'introduisent par effraction dans une église. Ouvrent les armoires, trouvent des décorations de Noël. Décident de monter le sapin, la crèche. On décore, on fait pas de mal, on vole rien, on brise rien, on s'en va en laissant les décorations là. Si on les pogne, ils sont-ils dans le trouble ou c'est un crime sympathique?
En fait, on a brisé une fenêtre.
Oui, bien là, il est entré par réfraction, ouais, mais pour le reste...
Ils ont volé deux bières. Hein? On voit ça et c'est un vol. Il y a eu une introduction par réfraction, il y a eu le vol de deux bières parce qu'ils ont consommé les deux bières qui étaient dans le frigo. Je sais pas si on a trouvé le vin de messe également, mais minimalement, je lisais dans le journal qu'on a volé ces deux bières-là. Et on voit souvent ça dans des introductions, dans des chalets, des choses comme ça, où on rentre, puis on vole pas nécessairement beaucoup de choses, mais on va manger un peu dans le frigo, on va prendre l'alcool qui est là, etc. Ça demeure une introduction par infraction. Évidemment, on est dans un endroit haute parce qu'il y a deux catégories d'introduction par infraction, là, celle de maison d'habitation et celle dans un endroit haute. C'est très particulier. On a quand même coupé le téléphone avant d'entrer. On a brisé une fenêtre. Et à ce moment-là, ensuite, on a fait de réaménagement à l'intérieur. Là, ils ont tout tassé les meubles. Ils ont mis ça dans le storage. Puis ensuite, on a mis les décorations. Mais même avec les épinglettes, tout ça, là, somme toute bien installé, selon les responsables de l'église, moins beau qu'en temps normal à Noël. Mais quand même, on a pris ce temps-là. On a fumé les cigarettes à l'intérieur. Pris une petite bière, puis on s'est fait un party de Noël en retard ou trop tôt. Mais effectivement, malheureusement pour ces personnes-là, s'ils se font prendre, ils risquent des accusations avec des conséquences derrière ça.
Ça pourrait-tu finir en absolution conditionnelle, étant donné le caractère relativement sympathique du crime?
Non, malheureusement, pour les introductions par infraction, là, ça va devenir difficile d'obtenir une absolution dans ce cas-là. Mais oui, là, ça finirait pas nécessairement là, une période incroyable d'incarcération. Surtout si on a affaire à quelqu'un qui était intoxiqué, qui avait très peu de mauvaises intentions. Là, il y a plutôt le méfait sur la fenêtre. Une fois qu'on aurait le remboursement de fait, là, c'est vraisemblablement pas des peines qui seraient très importantes derrière ça.
Juste avant de se laisser, je sais qu'on en parle souvent, mais c'est toujours bon de le répéter. Il y a eu une opération policière en fin de semaine concernant les motoneiges, l'alcool au volant de motoneige. Est-ce que c'est la même chose qu'être au volant de son véhicule? Est-ce que ces personnes-là s'exposent à tous les mêmes problèmes, c'est-à-dire d'avoir peut-être un antidémarreur, etc., etc., etc.?
Identique. C'est parfaitement identique. Et le code criminel sur l'infraction, souvent là, les gens ont sur la conduite durant interdiction, exemple, c'est la notion de sur un chemin public. Par contre, la faculté affaiblie, c'est en tout lieu.
Tout ce qui a un moteur.
Tout ce qui a un moteur. Et là, il y a quatre catégories. Là. Il y a du ferroviaire, si vous, ça, c'est une catégorie. Les aéronefs, c'est une catégorie. Les bateaux, c'en est une. Et tout le reste, tout le résiduel, tous les véhicules moteurs, c'en est une. Donc, qu'importe le véhicule moteur que vous conduisez, au moment de votre interception, si vous avez soit les facultés affaiblies par l'alcool ou la drogue ou que vous êtes au-dessus de la limite légale, oui. Vous allez avoir les mêmes conséquences, c'est-à-dire automatiquement un antécédent judiciaire, automatiquement, minimalement, une interdiction de conduire un an tout véhicule à moteur et une amende minimale de 1 000 $ si vous êtes dans la limite inférieure des taux.
Mais là, ça inclut le fameux quadriporteur?
Effectivement.
Parce qu'il y en a qui ont été arrêtés sur le pont du Buc, sur le pont Saint-Anne, au terme d'une folle poursuite. Est-ce que ça inclut également les vélos électriques et les trottinettes électriques?
Tout véhicule moteur propulsé par autre que le manuel.
Mais comme l'infraction a été réalisée sur une motoneige, est-ce que la SAC peut quand même vous obliger à avoir un antidémarreur sur votre véhicule principal?
Oui. Ben, en fait, c'est tant mieux pour vous, là. C'est parce que là où devient la technicalité là-dedans, c'est que si vous ne conduisez pas quelque chose qui est visé par la SAC, l'article 180 du Code de sécurité routière ne s'applique pas. Donc, théoriquement, vous n'auriez pas le droit à avoir l'antidémarreur. Ça, c'est simplement le code criminel qui vous dit interdiction de conduire d'un an.
Oh,
donc, tant mieux si on est capable, à ce moment-là, d'étendre le pouvoir de la SAC parce que ça va vous permettre, pendant cette année-là, de conduire
ça,
avec l'antidémarreur.
C'est quasiment pire, finalement.
Exact. Et ce qui est important de savoir maintenant, la seule bonne nouvelle, la seule où on a eu un petit peu d'amélioration, si on veut, en vertu des sentences, là, parce que tout devient de plus en plus sévère, c'est qu'avant, lorsque en chambre criminelle, on prononçait l'interdiction de conduire d'un an, vous devez attendre 3 mois avant de pouvoir faire installer la machine. Maintenant, vous pouvez la faire installer immédiatement. Et autre petit détail que les gens ignorent ou ne savent pas, si vous vous faites pogner pour une faculté affaiblie en bateau, ben c'est 1 an sans conduire de bateau et à ce moment-là, la SAC ne suspend pas votre permis de conduire.
Ah.
Et à l'inverse, si vous avez une faculté affaiblie en véhicule, ben vous pourrez faire du bateau tout le restant de l'été parce que c'est de catégorie en catégorie. Les véhicules moteurs, interdiction entre eux. Les bateaux, interdiction entre eux, okay. Etc.
Fait qu'on fait la différence entre le ponton sur le lac Kenogami puis ton 4 roues au centre-ville de Kenogami.
Et voilà.
Voilà.
Pourquoi toujours à Kenogami, Dom?
Ben là, j'ai eu un lac.
Veux-tu t'expliquer?
Je sais pas. Écoute, peut-être juste un petit mot en terminant sur le présumé écœurant de l'année. Là. Procès qui s'ouvre dans le coin de Trois-Rivières d'un individu qui aurait plongé les mains d'une enfant d'un an et demi dans la friteuse après avoir fait des frites. C'est épouvantable.
C'est incroyable. Et si ça se révèle être exact, parce que là, il y a un procès devant jury qui s'ouvre.
Oh oui.
Mais devant jury, là, c'est le genre de crime, on part avec 2 prises. Là.
C'est pas sympathique.
Et puis, je pense même qu'il est détenu depuis son arrestation en 2017. Donc, c'est quand même pas banal. La présumée complice, ou à coup de moins, ce qui était sa conjointe à l'époque, elle a été citée à procès sur complicité après le fait, négligence, ne pas avoir donné les choses essentielles à la vie de son enfant, etc. Et donc, ça sera maintenant le procès de l'homme qui est accusé de voies de fait graves. Il y a d'autres chefs d'accusation, mais pour éviter de s'éparpiller devant le jury, là, souvent, on va faire ça, on veut faciliter le travail du jury. Il y a seulement... Mais je dis seulement, il y a le chef de voie de fait grave qui a rendu des séquelles à vie de cette jeune fillette-là qui avait 15 mois au moment où on aurait plongé ses mains. Ce qui ressort du dossier, c'est que la défense plaide l'accident. Je sais pas comment un enfant de 15 mois se plonge dans une friteuse, on verra. Mais la thèse de la poursuite, c'est que c'était volontaire, fait pour punir ou se venger contre la fillette.
Ouch.
Et si jamais il était déclaré coupable de cette infraction-là, devant jury, après un procès, c'est une peine très importante qui lui pend au bout du
nez. Et tu sais, des avocats, ça faut que ce soit professionnel, mais en même temps, j'imagine que comme avocat de défense, ce genre d'affaires, tu n'as pas vraiment le goût de défendre non plus. Tu sais, tu dis, bon, il a le droit à une défense pleine et entière, mais en même temps, c'est tellement pas sympathique.
Exact, mais il faut faire attention. C'est pas sympathique à première vue. C'est pas sympathique si on se fie à la thèse de la poursuite. Maintenant, lui, il y a une autre thèse, là, et on verra quelle est-elle. Effectivement, il a le droit de défense, et c'est seulement ses droits. On ne défend pas le geste, on défend ses droits. Donc, si la procédure est conforme, puis que tout était respecté et qu'il est déclaré coupable, tant mieux pour le système et tant pis pour lui.
Absolument. Maître Bouliane, merci beaucoup.
Très plaisir, bonne fin de journée.
8h06, Maître Julien Bouliane.
On revient tout de suite après la pause. 95.7, Saguenay, le show du matin.